Au sommaire de notre club des têtes au carré cet après-midi, un prix Nobel de médecine spécialiste des prions, l'histoire de la lutte d'un chef indien d'Amazonie pour la survie de la forêt, et puis un naturaliste qui nous ouvre les yeux pour observer les animaux en bord de chemin. Donc dans la première partie de ce club, j'accueillerai en effet le neurobiologiste américain Stanley Prusiner qui a obtenu le prix Nobel de médecine pour sa découverte des prions, cette protéine infectieuse à l'origine de la maladie de la vache folle. Il publie La mémoire et la folie, la découverte des prions chez Odile Jacob. Almir Surouy est considéré comme l'un des plus grand défenseur de la forêt amazonienne aujourd'hui, chef d'une tribu d'un peuple indigène du Brésil. Son parcours hors du commun est raconté par Corinne Sombrin qui viendra nous retrouver avec cet ouvrage Sauver la planète chez Albin Michel. Et puis le naturaliste Marc Giraud s'intéresse toujours à la vie animale présente dans notre environnement le plus proche pour en étudier les comportements les plus variés. Il publie Les animaux en bord de chemin et il sera également avec nous. Et puis à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, une prothèse de main pour 200 € fabriquée à partir d'une imprimante 3D.
Et oui Mathieu, c'est le projet de Nicolas Huchet, récompensé par le MIT avec la main futuriste du robot InMove. On entre dans un instant dans l'univers des makers.
Voilà donc pour le sommaire de ce club des têtes au carré, réalisé par Céline Hila et préparé par Anne-Cécile Perrin et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
À la une de la science aujourd'hui, un sculpteur et un maker récompensé par le MIT, Nicolas Huchet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct de Rennes. Vous êtes ingénieur du son et bidouilleur. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction de maker. Comment vous dites-vous pour donner un terme français?
Bon, on pourrait dire quelqu'un qui fait, qui fabrique, qui met la main à la pâte et qui mélange les compétences, c'est son savoir-faire.
Bon, bah maker, c'est plus rapide en tout cas. Vous avez reçu la semaine dernière le prix de l'innovateur social de l'année décerné par le MIT dans la catégorie des moins de 35 ans. Vous avez imaginé et fabriqué une prothèse de main totalement imprimée en 3D. Et puis également avec nous par téléphone, Gaël Langevin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sculpteur et designer et c'est grâce à votre robot InMove, un humanoïde fabriqué justement, que vous avez fabriqué, que Nicolas a pu développer cette main. Alors Nicolas Huchet, comment vous est venue vous l'idée de fabriquer vous-même votre prothèse de main? Quel a été le déclic pour vous?
Alors moi j'ai eu un accident du travail en 2002 alors que je travaillais en tant que mécanicien de maintenance.
Ouais.
Et j'ai été amputé de ma main et donc j'ai été appareillé d'une prothèse myoélectrique. C'est une prothèse qui fonctionne grâce à l'impulsion de mes muscles.
Mmh.
Et qui transforme donc cette activité musculaire en électricité et qui me permet d'avoir l'usage d'une pince. Et il y a quelques années, j'ai appris l'apparition de nouvelles prothèses bien plus perfectionnées qui bougeaient tous les doigts. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas en avoir accès puisqu'ils sont pas remboursés par la sécurité sociale.
D'accord.
Voilà. Donc j'étais assez déçu et puis en même temps j'ai pris conscience que j'avais de la chance quand même d'être en France puisqu'il y a la sécurité sociale qui permet de la prise en charge d'appareils médicaux.
Mmh.
Et la deuxième chose c'est que en même temps j'ai découvert un Fab Lab. Donc un Fab Lab c'est un laboratoire public ouvert à tout le monde, aux citoyens, où on trouve des imprimantes 3D, des coupeuses laser, et puis plein de logiciels open source, et surtout plein de personnes sympas et rigolotes qui ont plein de compétences et qui ont envie de travailler ensemble.
Et il s'est écoulé 10 ans hein, entre votre accident, je crois, et votre découverte du Fab Lab, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça, ouais.
Ouais. Alors Gaël Langevin, vous avez créé la main d'un robot, InMove, donc en 2011. Est-ce que vous imaginiez un jour que quelqu'un allait s'en servir pour se fabriquer une prothèse de main?
Bien, cette main, c'est vrai qu'au départ, cette main, elle était, c'était un prototype qui était destiné à un constructeur automobile français. Donc, c'était déjà un design de prothèse un petit peu futuriste,
mm-hmm,
sur lequel j'avais travaillé. Ce travail, c'était pas fait, mais j'avais continué mon projet. Et une fois que j'avais réalisé cette première main, je l'ai mise en open source sur Internet. Et immédiatement, évidemment, il y a plein de gens qui se sont intéressés au projet. Qui souhaitaient s'en servir comme prothèse myoélectrique, entre autres,
mm-hmm,
et d'autres sortes de prothèses.
Alors Nicolas, vous avez récupéré la prothèse en open source, donc en accès libre. Comment fonctionne cette main techniquement? Qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir?
Alors, elle est capable de saisir des objets, de serrer des mains et de tenir un verre. Voilà ce qu'elle peut faire pour le moment.
et donc elle fonctionne comme une prothèse myoélectrique, c'est-à-dire quand je contracte mes muscles, l'impulsion électrique va commander la carte électronique qui va fermer les doigts. Mais à côté de ça, ça reste une preuve de concept et donc un prototype qui a besoin d'être développé puisque aujourd'hui elle est trop fragile et surtout trop encombrante pour être utilisée tous les jours en tant que prothèse.
Et pourtant le MIT donc vous a remis le prix de l'innovateur social, donc c'est aussi un encouragement pour vous à poursuivre, j'imagine.
Oui, alors c'est vrai que ça distingue, c'est bien la distinction entre la prouesse technologique et donc l'invention de Gaël et puis et l'aspect social du projet qui est quand même de l'association nous qu'on a créée qui s'appelle My Human Kit qui souhaite permettre à d'autres personnes qui ont un handicap en fait de se prendre en charge par elles-mêmes et d'agir elles-mêmes sur leur handicap pour en fait accepter leur handicap quoi. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, le fait d'agir et de vouloir améliorer ma vie, et ben ça m'a permis d'accepter un peu mon handicap quoi, et surtout de donner une raison à ce qui m'était arrivé.
Gaël Langevin, le prix donc a été décerné à Nicolas et à son association. Pourtant, c'est vous qui avez imaginé cette main. C'est ça aussi l'open source ? C'est la philosophie ?
Alors l'open source, en fait, c'est effectivement une idéologie de partage. C'est-à-dire qu'on met des éléments sur Internet ou autres qui permettent à d'autres personnes de pouvoir profiter et de travailler sur un seul et même projet ou différents projets et de le faire évoluer dans un sens normalement plutôt positif. Voilà. Et c'est pour ça que le projet, depuis le début, le projet InMove que je mets sur Internet, à chaque fois je mets des éléments sur Internet, c'est-à-dire je vais faire d'abord la main, je fais ensuite l'avant-bras, le bicep, le torse, la tête du robot, et à chaque fois que je travaille, je partage des éléments de façon à ce que tout le monde puisse profiter de ce que j'ai découvert et apprendre avec mes innovations.
Et du coup, c'est comme ça, Gaël Langevin, que votre main a été présentée à Barack Obama aussi, alors ?
Exactement.
Ouais, avec un autre maker qui en a fait autre chose, en fait. Hein.
Alors là, oui, effectivement, c'est une jeune fille qui a imprimé la main. Bon, la seule différence, c'est que elle n'a pas attribué la création à Gaël Langevin.
C'est dommage.
Elle a un petit peu dit que c'était elle qui l'avait réalisé.
Ah, ça c'est moins bien, effectivement.
Oui, c'est moins bien. Oui. Alors c'est les aléas de l'open source, oui. Et c'est les choses qui peuvent se passer, d'autant plus que sur open source, il y a toutes sortes de différences. C'est-à-dire qu'on peut avoir open source totalement ouvert, c'est-à-dire qu'on peut reproduire les pièces et ne pas créditer la personne qui a fait les pièces au départ, mais il peut y avoir aussi des licences qui vont plus ou moins stipuler que la personne qui télécharge les pièces, si elle les redistribue, elle doit les redistribuer suivant la même licence et attribuer la fabrication ou la création à la première personne au départ.
Alors Nicolas Huchet, vous avez créé une association autour de votre projet. Vous, le but, c'est d'aider d'autres personnes à faire comme vous maintenant dans le monde ?
Bah c'est oui, c'est ça, c'est également de lever des fonds pour continuer l'aventure et surtout d'avoir une structure voilà pour permettre à d'autres personnes pour leur donner envie et puis travailler en collaboration.
Qu'est-ce qui reste à améliorer là aujourd'hui ?
La miniaturisation des composants et puis la robustesse et puis surtout la précision des mouvements, on va dire avoir une pince précise qu'une prothèse doit avoir.
Et la rendre waterproof aussi je crois hein, cette main. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Ça c'est l'étape ultime, ouais, c'est pouvoir aller dans l'eau avec. Ouais.
D'un autre côté, votre robot Gaël Langevin a continué sa route aussi, il fédère une grande communauté. À quoi est-il destiné aujourd'hui ?
Alors c'est devenu vraiment un projet sur une sorte de plateforme open source sur lequel les gens peuvent s'appuyer, travailler. Et il est utilisé dans les universités, dans les écoles, par des makers comme Nicolas ou même des gens qui travaillent dans leur petit garage, qui sont des pères de famille. C'est essentiellement pour apprendre à construire et développer un robot, programmer un robot. C'est pas un robot qui pourra servir le café à une personne, c'est étant donné qu'il était imprimé en plastique, mais ça permet de travailler sur un projet et de comprendre comment ça fonctionne et de développer des éléments.
Et si on veut télécharger les plans, on les trouve où ?
Alors vous faites www.inmove.fr.
Voilà.
Inmove, c'est I-N-M-O-O-V.
Et Nicolas Huchet, de votre côté, vous cherchez des mécènes, on peut le dire aussi.
Oui, bien sûr, vous pouvez aller sur www.bionico.fr.
nico.org.
Voilà, toutes les infos sont sur le site, évidemment, de la Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les deux et bravo quand même pour cette initiative, parce qu'on voit que les idées avancent aussi de cette façon-là et que c'est tout à fait performant. Axel, on peut podcaster la Une de la Science, comme tous les jours.
5 Une de la Science à écouter pendant tout le week-end et 5 dossiers aussi. Ça fait 10 podcasts à télécharger sur le site de l'émission.
Et c'est gratuit. Vous allez sur franceinter.fr. Allez, bon week-end, à lundi. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la vie agrandirait les continents. C'est la découverte étonnante présentée au congrès européen annuel des géosciences à Vienne. Les plantes, en rompant la terre avec leurs racines, aideraient l'écoulement des eaux dans le manteau, aidant ainsi la croûte terrestre à se développer. À l'aide d'un modèle informatique, les scientifiques ont prouvé que si les terres émergées couvrent aujourd'hui 40% de la planète, ce chiffre aurait chuté à 30% sans l'aide de la vie. Le soleil a un nouveau calendrier. Des chercheurs américains ont démontré que notre étoile n'avait pas que des cycles d'activité de 11 ans, mais aussi de 11 mois. C'est en étudiant les bandes magnétiques qui parcourent le Soleil qu'ils ont pu observer ces phases beaucoup plus courtes. Cette découverte devrait permettre aux astrophysiciens de mieux comprendre la météorologie solaire et le comportement de ces bandes magnétiques. Et puis les chimpanzés sont prudents sur les routes. Une étude réalisée en Ouganda montre que les singes sont particulièrement soucieux des dangers avant de traverser une route à fort trafic. Et ce sont les mâles alpha qui organisent la traversée. Comme on l'enseigne aux enfants, ils vérifient des deux côtés de la route et s'assure que les plus faibles et les plus jeunes sont arrivés sains et saufs. Cette étude devrait aider à mettre en place de nouvelles réglementations de sécurité alors que la construction des routes a explosé en Afrique depuis 10 ans. Avec Garde-le pour toi sur France Inter.
La Tête au Carré. Le club sur France Inter.
Un invité exceptionnel pour commencer donc notre club des Têtes au Carré cet après-midi, puisque je reçois le prix Nobel de médecine, Stanley Prusiner. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi.
Merci.
Stanley Fruziner, vous êtes américain, neurobiologiste, directeur de l'Institut des maladies dégénératives de l'Université de Californie à San Francisco. Et vous avez reçu votre Nobel de médecine en 1997 pour votre découverte du prion. Vous êtes donc de passage en France à l'occasion de la sortie chez Odile Jacob du livre « La mémoire et la folie, la découverte des prions, un nouveau paradigme biologique ». Et dans cet ouvrage, Stanley Fruziner, vous faites donc le récit de vos recherches et de votre découverte des prions en dressant un portrait assez impitoyable de la science de haut niveau. On va en parler avec vous dans un instant, mais évoquons d'abord les prions, ces agents pathogènes qui se sont fait connaître avec la maladie de la vache folle. C'est vous qui avez introduit ce nom de prion en 1982 ?
Yes. I did introduce the name.
Oui, c'est vrai que j'ai introduit ce nom.
Whether or not this was a wise decision.
Je me suis demandé à l'époque si c'était une décision très sage. Beaucoup d'amis m'ont mis en garde en me disant que j'étais peut-être en train de mettre de pied dans un domaine pour lequel je n'étais pas préparé.
I thought it was time.
Mais après tout, je me suis dit à l'époque qu'il était temps de faire la différence entre cet agent infectieux que j'étudiais et d'autres pathogènes qui appartenaient au monde des virus, des viroïdes, puisque toutes les preuves pointaient en direction d'une protéine et non pas d'un acide nucléique, ADN ou ARN. Il n'y avait donc pas de matériel génétique vivant. Et c'était là la conclusion inévitable à laquelle je parvenais, et il me semblait que de nommer ce pathogène autrement n'aurait pas été bon si on l'avait appelé virus ou de type virus. Ce n'était pas quelque chose de satisfaisant. Nous avions vraiment accompli un progrès considérable. Il fallait que cela porte un nom.
Et on va le voir, hein, ce mot « prion », vous avez lu le mépris, les insultes, l'incrédulité de la part de la communauté scientifique. Mais à quel moment d'abord est-ce qu'on a identifié pour la première fois le rôle des prions dans la transmission de certaines maladies neurodégénératives ?
So the first studies were done
Les premières études
an isolate from sheep.
Ont été réalisées avec un isolat du mouton qui a été transféré et implanté dans la souris plusieurs fois. C'était donc l'agent de la tremblante qui avait été adapté au modèle de la souris. Ces études ont donc été réalisées sur cette base-là, avec cette préparation. Mais aussi avec une préparation de hamster, et ça avait commencé chez le vison avec une maladie très rare qui s'appelle l'encéphalopathie du vison. Mais les études, elles ont été faites chez la souris et le hamster pour rendre le travail plus facile. On ne pouvait pas utiliser le mouton, le modèle humain, on ne pouvait pas utiliser le vison non plus. Et les rongeurs, comme le hamster en particulier, offrait un modèle bien plus satisfaisant en termes de rapidité et d'accumulation de l'agent de la tremblante dans le cerveau.
Alors vous, Stanley Fruziner, vous avez débuté vos recherches en 1972, alors justement avec la tremblante du mouton.
En 1972,
une de mes patientes est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Et 4 ans seulement avant, Gajusek, qui travaillait au NIH, avait rapporté que la maladie de Creutzfeldt-Jacob, comme le courroux, pouvait être transmise aux singes et aux chimpanzés au bout de quelques années. Donc c'est vraiment cette patiente qui m'a donné l'envie de m'intéresser à ce sujet. Et puis, cela aussi grâce à des collègues neurologues exceptionnels. C'est vraiment cela, si je peux dire.
Collision.
C'est en quelque sorte cette concordance des circonstances, le fait d'être face à cette patiente, et puis toutes ces données des années 60, en particulier de Tirgva Alper, qui travaillait en Grande-Bretagne et qui avait montré que la janda tremblante, qui était transmise à la souris, ne pouvait pas être détruite par les rayons X, par la lumière ultraviolette. Donc tout cela a fait une sorte de coalescence et c'est vrai que je me suis passionnée pour ce domaine et cette possibilité de trouver quelque chose qui serait quand même un petit peu différent de ce que l'on connaissait.
Et donc vous trouvez des points communs entre le cerveau des moutons et le cerveau de cette personne décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob?
Well, that wasn't me. So another correction in the history here.
Ce n'est pas moi qui l'ai mis en évidence. Une autre petite correction que j'apporterai en 59.
American veterinarian working in England.
Un vétérinaire américain qui travaillait au Royaume-Uni a écrit un article dans le Lancet et qui décrivait la similitude entre la tremblante du mouton, non pas Creutzfeldt-Jakob, mais du Kourou, des tribus de Nouvelle-Guinée qui présentaient des similitudes. Il a donc suggéré en 1959 de faire des expériences pour chez le chimpanzé en particulier, primate le plus proche de l'homme, pour voir si on pouvait répliquer cette transmission de la tremblante d'un mouton à l'autre, comme on l'a évoqué. Ça a été fait pour la première fois en France en 1938. Donc si on pouvait avoir un peu le même modèle entre ces deux pathologies, Kourou et tremblante du mouton.
Stanley Prusiner, on considère, on qualifie le prion d'agent transmissible non conventionnel parce qu'il diffère justement de tous les agents infectieux connus comme les virus, les bactéries ou les parasites.
Well, you know, I could say that we could call a virus a non-conventional
transmissible non conventionnel parce que ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un parasite. Donc toute cette terminologie est à mon sens une source d'inhibition, finalement, d'écran qui empêche ceux qui ne sont pas familiers de ces domaines-là de les comprendre. Et c'est pour cela que je suis partie dans une espèce de croisade pour justement ne pas se laisser complètement emprisonner par la terminologie parce qu'il y a des virus qui n'infectent que les rats ou que l'homme ou que les singes ou qui n'affectent que les éléphants. Et lorsqu'on commence à faire la différence entre ce qui est conventionnel et non conventionnel, cela m'apparaît finalement une attitude très qui donne lieu à des confusions. Et en général, je crois que la communauté scientifique a besoin justement de clarté. Et par exemple, maintenant que l'on sait que la maladie d'Alzheimer, de Parkinson sont dans ce champ-là, il faut que l'on fasse l'information de l'industrie pharmaceutique pour qu'il n'y ait pas justement cette confusion terminologique.
Ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez vos détracteurs, très virulents justement sur cette hypothèse du prion que vous avez proposé?
I think the people complained that it just was not possible to have something which replicated, which
multiplied. Ce qu'on reprochait, c'est qu'il n'était pas possible d'avoir quelque chose qui se répliqua et qui n'ait pas de matériel génétique type ADN ou ARN.
We're talking about the early 1980s.
Et on parle ici du début des années 80 lorsque j'ai introduit ce terme de prion. Mais quand on remonte à 40 ans en arrière, dans les années 40, Avery McCarthy avait découvert que l'ADN était le matériel génétique de la vie. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à l'élucidation par Watson et Crick de la double hélice, il y avait encore des gens qui ne croyaient pas que les gènes étaient fabriqués à partir d'ADN, mais qu'ils étaient faits de protéines. Donc finalement, tout le monde s'est converti en quelque sorte à la fin des années 40, au début des années 50, et même jusqu'au début des années 60. on peut le dire. Ah, tout d'un coup, on s'est dit, ah oui, d'accord, il y a de l'ADN, l'ARN dans les gènes, les protéines sont le produit de cela. Mais avant cela, les protéines étaient confondues avec les gènes parce qu'on disait l'ADN, l'ARN, c'est trop simple, il n'y a que 4 bases.
Oui. En tout cas, pour vous, Stanley Prusiner, c'est évidemment la consécration en 1997 avec la remise donc de ce prix Nobel qui reconnaît largement, officiellement et aux yeux du monde entier, votre découverte du prion. Mais vous êtes encore critiqué, même avec le Nobel. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
So, I was surprised after the Nobel Prize. In fact, I was surprised after the Lasker Award 3 years earlier, and I laid that out in the book.
Après le prix Nobel, j'étais relativement surpris, et même après le prix que j'avais reçu 3 ans plus tôt, de voir le nombre quand même assez important de gens qui étaient encore très critiques. Alors peut-être qu'on pourrait penser qu'ils voulaient un peu ralentir la progression parce qu'ils voulaient être là au moment où la ligne d'arrivée serait franchie. Alors peut-être que c'est un petit peu cynique d'avoir cette attitude, mais bon, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Mais quand le prix Nobel est arrivé, bon, je n'y étais pour rien dans cette distinction. Je ne me suis pas choisi comme lauréat du Nobel, évidemment. Et j'étais relativement choqué par les réactions négatives de la presse à l'époque. Et ce désir que je ressentais de me salir, en quelque sorte, et je n'étais pas préparé à cela, je dois dire. Et je n'arrivais pas à me l'expliquer.
When I look back on it and I wrote the book,
et finalement, en y réfléchissant, et lorsque j'ai écrit ce livre, les choses se sont un petit peu éclaircies dans mon esprit. En fait, il s'agissait d'une découverte révolutionnaire. Et il a fallu du temps pour que les gens l'acceptent. Et ce n'est pas encore fait complètement, parce qu'il y a encore pas mal de résistance vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson étant causée par le prion. Il y a beaucoup de gens encore qui le doutent, le fait que les protéines deviennent des prions. Et je crois qu'il faudra encore un peu de temps avant qu'il y ait un véritable consensus en la matière.
Donc c'est une très longue bataille autour du prion, bataille que vous menez toujours, Stanley Prusiner, et vous en racontez donc les différents épisodes et les différents rebondissements dans cet ouvrage qui s'appelle La mémoire et la folie, qui sort donc en France, La découverte des prions, un nouveau paradigme biologique, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment d'être venu, Stanley Prusiner, et merci à vous, Caroline Mandron, qui assuriez donc la traduction de cet entretien dans ce club des têtes au carré. On partira dans un instant en Amazonie avec la suite de notre club en compagnie de Corinne Sombrin.
Pacing the deck, a lonely bosun, jet-tarred and fired beneath the salt of ocean. Lend me an anchor to sink this planet, unhook these arms to ply the godly habit. There's so many tides are made to go to waste. So many tides are made to go to waste. Ages alter this sacred trade is everywhere and nowhere. Hung out to dry in tall black cabins, facing the cliffs, the gangs of gulls inhabit. There's so many tides are made to go to waste. so many tides are made to go to waste.
The Leisure Society avec Tall Black Cabins.
La tête au carré. Le club.
Corinne Sombrin est avec nous également dans ce club des têtes au carré. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Alors vous êtes la plume, on va le dire comme ça. Hein.
Plume,
c'est
oui.
Un exercice particulier, la plume d'un Indien d'Amazonie, pour ce livre « Sauver la planète » qui sort chez Albin Michel. Cet Indien, alors vous allez me prononcer son nom intégralement s'il vous plaît, parce que moi j'aurais du mal à le dire.
Allez, je me lance. Oui. Almir Narayamoga Surui,
voilà.
Ce qui veut dire l'esprit qui unit les pouvoirs spirituels.
On va l'appeler Almir entre nous. Comment est-ce que vous l'avez rencontré alors, ce jeune homme hein.
Ce jeune homme, il a 40 ans. Ouais. Aujourd'hui, il a commencé à être élu chef de son clan à 17 ans, vous vous rendez compte ? Et je l'ai rencontré pour un projet d'écriture d'un spectacle autour de l'histoire des Surui, un spectacle qui aurait été joué par les Surui, parce que le grand kiff d'Almir Surui, c'est de trouver des moyens de faire passer leur message. Ouais. Alors, il faut savoir que les Indiens au Brésil représentent 0,42% de la population, donc c'est... Pour le gouvernement, c'est négligeable.
Ouais.
Et leur seul moyen de faire savoir ce qui se passe, c'est d'utiliser les moyens actuels. Donc Almir pense que le spectacle, c'est un moyen super sympa. Et il en a d'autres, bien sûr. Il utilise, on les appelle les Indiens high-tech aujourd'hui.
C'est ça.
C'est pas pour rien.
Exactement, parce qu'ils utilisent tous les moyens à leur disposition. Internet, évidemment.
YouTube,
Google, avec la reconnaissance justement du territoire de l'Amazonie.
Ouais.
C'est au fond ce livre, le testament spirituel d'Almir pour la préservation de la forêt, parce que c'est un homme, d'abord, qui vit protégé par des gardes du corps, et il a un combat qu'il mène, et qui d'ailleurs a été remarqué dans le monde entier maintenant.
Et oui, c'est ce qui énerve un petit peu les déforesteurs illégaux, qui viennent leur piquer du bois, parce qu'il en reste pratiquement plus que sur les territoires indigènes.
Oui.
Donc Almir s'est fait détester, justement, en faisant passer ce message, il s'est fait un peu détester par eux, et il a écopé de plusieurs contrats de 100 000 dollars. Donc, chaque fois, où il est évacué, là, il a décidé quand même de rester sur son territoire, parce qu'il a dit, après tout, c'est qui est-ce qui a raison, c'est eux ou c'est moi? Donc, pourquoi moi, je devrais fuir face à eux? Donc le gouvernement lui a attribué une protection de deux gardes du corps des forces spéciales de la police brésilienne.
Alors il appartient à un peuple légendaire dont le nom ancestral veut dire les hommes vrais. Nous, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Et justement, sa tribu est entrée officiellement en contact avec les Blancs. Ça s'est passé en 1969. Et vous racontez donc cet événement qui a failli totalement décimer cette tribu. Ils étaient quoi, 5000 au départ ?
Ils étaient 5000 en 69 et trois ans après, ils étaient 240 décimés par les épidémies essentiellement et surtout mal vaccinés contre ces épidémies qui étaient la rougeole, la grippe et une maladie qu'on a identifiée plus tard comme la blastomycose, une affection pulmonaire.
Comment a commencé finalement la fin de cet isolement? En tout cas, il y avait des enjeux très forts de traverser du territoire pour les grandes compagnies brésiliennes et donc devoir passer sur leur...
Ça a commencé dans les années 70 lors de la dictature militaire au Brésil où le président Médici a dit qu'il fallait donner la terre sans hommes aux hommes sans terre.
Ouais.
Voilà. Donc sous le slogan sécurité et développement, il a décidé qu'il fallait coloniser l'Amazonie et donc ouvrir des routes, ouvrir l'Amazonie aussi avec le télégraphe. Et c'est comme ça que les Indiens, qui gênaient la construction souvent, c'est toujours comme ça qu'ont été établis les contacts, c'est parce que ça gênait l'évolution des travaux des routes.
Ouais.
Donc pour les Surui, c'est la BR-364 qui a marqué la fin de leur isolement.
Ouais. Et ça a été un traumatisme inimaginable. Enfin, il faut se mettre quand même évidemment dans le contexte.
5000
personnes au départ, 240 après.
Oui, Almir me dit, moi, lui, il est né 5 ans après ce contact.
Ça.
Donc il a toujours vu ceux qui restaient, les survivants avaient perdu un père, une mère, des enfants, des grands-parents, ils ont tout perdu dans l'histoire. Non seulement ils ont perdu toute la tribu, mais en plus ils ont été confrontés à un changement de mode de vie qui a été aussi difficile à intégrer. Parce que par ce que les Blancs appelaient le front d'attraction, ils les ont rendus dépendants d'objets dont ils n'avaient pas besoin avant, donc de couteaux, de miroirs, de choses comme ça. Et une fois qu'ils ont été dépendants, il a bien fallu qu'ils trouvent après les solutions pour pouvoir acheter ces objets. Donc ça a changé complètement leur mode de vie, parce que jusque-là, ils vivaient en harmonie avec leur environnement, avec des besoins, peu de besoins, et une forêt qui était assez généreuse pour leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Donc à partir de là, ça a tout changé. Donc ce qu'on raconte dans ce livre, et surtout on raconte aussi comment Almir défend sa forêt, et comment surtout il propose des solutions aujourd'hui pour faire en sorte que la forêt soit plus rentable en la préservant sur pied qu'en la détruisant.
Voilà. Apporte aussi des ressources évidemment à sa tribu, et puisse en même temps protéger son environnement. Vous décrivez tous les épisodes d'escroquerie des grandes compagnies, parce que vraiment il y a des choses qui ont été très longues en plus, qui se sont parfois bien finies, mais en tout cas ça a été des années de combat pour défendre son territoire.
Exactement, et à le faire cadastrer, ça a été le grand, même cadastrer, des compagnies privées ont carrément vendu les parcelles à des colons qui sont arrivés là en pensant honnêtement qu'on leur avait vendu, qu'ils étaient propriétaires de ces parcelles, donc ils ont commencé à cultiver du café notamment, et quand ils sont installés là, les Surus ont dit, mais oh, c'est chez nous ici, on nous a officiellement donné ce territoire. Donc il a fallu chasser ces colons qui se sont défendus évidemment, parce qu'ils avaient payé, ils avaient souvent mis toutes leurs économies pour acheter ces terres qui étaient pour eux un petit Eldorado. Ouais. Et donc il a fallu chasser ces colons. Et
combien sont-ils aujourd'hui ?
1400.
1400. Ils ne redeviendront jamais la tribu qu'ils ont été
Non, ils en sont conscients, mais ce qui est bien dans la démarche d'Almir et du peuple Surus, c'est qu'ils ne se positionnent pas du tout en victime aujourd'hui. Ils ont pris leur destin en main et ils ont dit voilà, Almir est très heureux de ce qu'a pu lui apporter l'Occident dans justement les technologies de pointe. Et sa position aujourd'hui, c'est de dire, bon, attention, vous, ce que vous nous avez appris, c'est génial, c'est formidable, ça me permet de dire ce qu'on a à dire, mais surtout aujourd'hui, écoutez ce qu'on a à vous dire, parce que nous, on est les gardiens de la forêt, on sait comment la gérer, et quand vous aurez tout détruit partout, on va vous donner les clés pour vous permettre de survivre grâce aux ressources de la forêt, donc il ne faut pas la détruire.
Alors, lui, il a eu beaucoup de chance, Almir, parce qu'il avait des bons résultats scolaires à l'école, donc il a été poussé également, et puis il a pu aller à l'université, c'était une opportunité qui était offerte à des jeunes Indiens, près de Brasilia par exemple. Ensuite il est allé aux États-Unis, donc il a eu un parcours tout à fait exceptionnel quand même.
Oui, premier de sa tribu à pouvoir aller à l'université, revenu de l'université, élu chef de son clan, et après justement par tout le travail qu'il a fait pour empêcher la déforestation sur son territoire, les contrats ont commencé à tomber, et c'est là qu'il a été évacué en fait en Californie, où plutôt que de ne pas faire grand-chose, il s'est dit « je vais aller rencontrer les gens de Google, parce que peut-être que Google Earth, auquel il avait eu accès, permettrait de montrer au gouvernement la déforestation en direct.
» Donc c'est ce qu'il a fait, il est allé au siège de Google.
Oui, parce qu'en fait, il avait, en ayant accès à Google Earth, il avait fait comme chacun de nous fait, c'est-à-dire qu'on va zoomer sur l'endroit où on habite, c'est systématique. Et lui, en zoomant sur le territoire, il a vu qu'il avait écrit « territoire inhabité ». Alors ça l'a un peu énervé, ça l'a un peu déçu, Alors quand il a eu l'occasion d'être en Californie, il a dit je vais aller les rencontrer là ces gens de Google parce que j'ai deux mots à leur dire. Et puis non seulement j'ai deux mots à leur dire, il faudrait réparer cette injustice parce que on habite nous là, mais on pourrait se servir de Google Earth pour montrer au gouvernement l'état de la déforestation en ce moment et les convaincre de nous aider
à replanter. Exactement. Ça c'était son idée de départ qui a stupéfait tout le monde. On l'a pris pour un dingue, replanter des arbres.
Mais oui, même dans sa tribu, on a dit mais enfin c'est comme si tu voulais mettre de l'eau dans la mer, c'est rigolo ton histoire. Là, mais bon, et il a bien fait aujourd'hui grâce à des dons justement d'ONG dont l'association Aquaverde, il a réussi à replanter 170 000 arbres. Et dans son projet de gestion de la forêt sur 50 ans, il a mis ça en place aussi.
Un grand plan,
Un grand plan, oui, exactement, qui est aujourd'hui à la disposition des autres tribus et qui fait qu'une tribu aujourd'hui, grâce à ce plan, peut être économiquement indépendante. Et ça, c'est très très important. Ouais. Et donc, Almir, il a réussi à faire replanter 170 000 arbres avec les gens de sa tribu. Et il a en projet d'en planter 1 million. Ouais. Mais pas n'importe comment, parce que là aussi, il y a eu des scandales sur replanter des eucalyptus dans des endroits où c'est pas du tout adapté. Et là, ce sont les femmes de la tribu qui ont décidé à quel endroit on allait replanter les essences, c'est-à-dire qu'elles ont décidé qu'on les replanterait là où elles ont été coupées, d'où elles étaient originaires, et donc là où elles auraient le plus de chances de vivre et de grandir.
Ouais. Il y a ce projet Carbone sur 8, justement. Ça, c'est une des réalisations les plus importantes de la tribu.
Oui, parce qu'Almir a bien vite compris qu'il fallait rendre sa tribu indépendante économiquement, parce que s'il devait attendre les aides du gouvernement et des ONG, c'était formidable, mais il fallait attendre longtemps. Donc il a essayé de trouver des solutions pour justement faire en sorte que la forêt soit rentable sans la détruire. Et pour ça, il a contacté pareil des ONG pour essayer de mettre en place un plan de compensation carbone sur leur territoire. Et aujourd'hui, il a réussi son coup quand même. Depuis un an et demi, on peut trouver du crédit carbone sur huit sur le marché des carbones sur huit, ce qui veut dire que des sociétés polluantes aujourd'hui vont acheter au sur huit une compensation carbone, et grâce à laquelle ils vont pouvoir gérer leur forêt, améliorer la gestion de cette forêt, et surtout pouvoir faire vivre la tribu de tout ça aussi.
Et en 2012, donc, ce projet effectivement a été accepté sur le marché indépendant des émissions carbone. C'était vraiment une victoire énorme.
C'est la première tribu qui gère aujourd'hui au monde, qui gère elle-même ses crédits carbone, et Almir, c'est pas pour ça qu'il a décidé de vendre ses crédits carbone à n'importe qui. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont vendu par exemple à Natura Cosmetica, qui est le plus gros laboratoire de cosmétiques bio du Brésil. Il a dit, bon, moi je veux bien vous vendre des crédits carbone, mais à condition que vous vous engagiez à réduire vos émissions carbone. Voilà, parce qu'il veut que la prise de conscience, elle se fasse des deux côtés, et pour lui c'est important. Donc on ne vend pas non plus ses crédits carbone à n'importe qui.
Et en 2013, à l'occasion du Forum mondial des droits de l'homme, il a reçu le prix des droits de l'homme. C'est un prix qui représente la plus haute distinction du gouvernement brésilien.
Oui, et celui des droits de l'homme à Genève aussi. En 2008, il a reçu un autre prix des droits de l'homme. Il a été élu héros de la forêt par l'ONU. Donc aujourd'hui, c'est un des personnages qui compte en Amérique du Sud.
Et vous racontez donc son histoire et son message dans cet ouvrage « Sauver la planète », Corinne Sombrin, livre qui est paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans le Club des Têtes au Carré.
Merci.
Merci à vous.
My friend is feels their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff. I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me till you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. He told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up.
Bill Withers avec Use Me à l'instant.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Ma Marc Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste de terrain, on vous connaît bien dans La Tête au Carré. Vous êtes écrivain, spécialiste de zoologie et vous arrivez avec un nouvel ouvrage, Les animaux en bord de chemin, aux éditions Delachaux et Nestlé. Alors c'est un guide pratique, comme vous aimez justement nous proposer, pour apprendre à mieux comprendre le comportement des animaux et puis tant qu'à faire à mieux les observer, parce que Absolument. Beaucoup d'entre eux sont là autour de nous et on ne les voit pas toujours.
Hein. Voilà, c'est aussi un livre pour ouvrir les yeux et les oreilles, et c'est un livre d'éthologie, en fait la science du comportement. Les livres ne sont pas vraiment grand public, ils concernent des espèces exotiques ou des tests de laboratoire. Et en fait, on a devant les yeux des animaux qui bougent sans arrêt, et ce livre, il y a 700 photos d'animaux qui bougent, ils ne sont pas perchés comme ça sur une branche ou en train de marcher, ils sont en train de se battre, en train de parader, on regarde vivre les animaux.
Est-ce que c'est facile justement de photographier les comportements des animaux et est-ce que certains comportements vous ont vraiment échappé parce que c'est très compliqué d'être là au bon moment?
Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir 40 photographes de terrain qui m'ont apporté des choses fabuleuses. Donc j'ai fait un peu à l'envers ce livre qui a un peu dérouté l'éditeur, c'est-à-dire qu'on est parti des photos et quand il y avait des photos, j'ai décodé les j'ai pas fait un texte et après on cherchait l'image parce que là en général on rame. Ouais. Alors qu'il y a tellement de choses à raconter, moi ça m'est égal de toute façon, tout est intéressant. Donc là on a vraiment des comportements complètement scotchants ou des choses qu'on voit mais qu'on ne décrypte pas. C'est un peu mon expérience de l'audiovisuel, de légender, de commenter des images. J'ai compris deux lois. On ne parle pas de choses qu'on ne voit pas. C'est par exemple un renard qui se balade, on ne va pas raconter sa reproduction, on la voit pas. Donc c'est frustrant. Mais on ne raconte pas non plus ce qu'on voit puisqu'on le voit. Donc, ce qu'il faut, c'est raconter ce qu'il y a derrière, décrypter l'image, par exemple. Mm-hmm. Ce renard se balade, mais il a les oreilles qui pivotent. Ça veut dire qu'il a senti un danger à côté. Il a la queue entre les jambes. Ça veut dire qu'il est en dehors de son territoire, qu'il n'est pas sûr, etc. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut apprendre à revoir. Donc, j'ai mélangé plein de savoirs très différents de propriétaires, parce qu'il y a des animaux domestiques, d'ornithologues, d'entomologistes, enfin de plein de spécialités différentes.
Oui.
Qui fait que je parle de tout ce qu'on peut rencontrer quand on se balade avec des animaux de tous les jours. La roue du pigeon, tout le monde peut le voir, voilà.
Et de l'insecte au mammifère, hein, parce qu'il y a vraiment, il y a tous les formats aussi.
Voilà, les petits, les gros, les sauvages, les domestiques, tout est bon, tout est intéressant.
Ouais, pourquoi avoir mis les renards justement en couverture du livre?
Ah, c'est un peu mon chouchou aussi, le renard, parce que je voulais, je sais, alors c'est un petit peu commercial, mais les gens aiment les animaux proches de nous, les mammifères, donc à fourrure, etc., c'est beaucoup plus familier, et en même temps c'est un animal sauvage. Il est en même temps sauvage, familier et intéressant pour tout le monde à décrypter. Et là, ce sont des renardos qui jouent sur la couverture.
Ouais.
Et le jeu, c'est quelque chose de passionnant. Le sommeil, c'est quelque chose de passionnant. Et en étudiant ce que j'avais à dire, j'ai découvert par exemple que les animaux qui jouent sont aussi ceux qui rêvent. Et il y a les seuls animaux qui jouent et qui rêvent, ce sont les vertébrés à sang chaud, comme on disait avant. Par exemple, le chat, qui est un champion du sommeil, qui a un sommeil paradoxal de 200 minutes, le double de l'homme. Donc il rêve énormément toutes les 24 heures.
Mais on sait à quoi il rêve.
C'est 6 minutes.
On sait à quoi il rêve.
Oui, on sait à quoi il rêve.
Ah bon, mais comment on peut le savoir?
On a fait des expériences assez horribles parce que on a dans le cerveau, ça je vous dirai pas parce que je suis pas neurobiologiste, on a quelque chose qui désinhibe les gestes. Sinon, on serait tous somnambules, on se baladerait. Donc, on a réinhibé, si vous voulez, pendant le sommeil du chat, ce truc-là. Et on a vu que le chat chassait, jouait, etc. Il avait sa vie de chat, quoi. Donc, on sait à peu près à quoi il rêve.
Ouais. Alors, donc, tous ces animaux sont présents. Et puis, effectivement, ce sont leurs comportements qui vous intéressent. Et leur proximité aussi avec l'humain. Parce que ces animaux sauvages, pour certains d'entre eux aussi, ont appris à vivre dans un environnement où l'homme et la ville ne sont pas très loin de lui.
Hein. Ah bah oui. Il n'y a pas besoin d'aller ni dans des pays lointains ni en pleine nature. On regarde la promenade du chien. Le chien, c'est l'animal le plus proche de nous. On a presque co-évolué. Il y a 300 000 ans, on a déjà découvert des restes de chiens à côté d'Homo erectus. Donc vraiment, le chien est beaucoup plus proche de nous dans la compréhension de notre langage que le chimpanzé, qui est pourtant génétiquement bien plus proche. Donc vraiment, le chien et l'homme, il y a quelque chose de fusionnel.
Ouais, c'est intéressant d'étudier des espèces comme le loup et le chien, par exemple, qui ont des ancêtres communs. et de voir aujourd'hui comment ils évoluent et quels sont leurs points communs aussi dans leur comportement.
C'est comme ça qu'on comprend mieux les animaux domestiques en regardant leurs ancêtres sauvages ou leurs cousins sauvages. Mmh. C'est en étudiant le passé qu'on comprend mieux le présent. Pourquoi un cheval est trouillard? C'est parce que c'est une proie à la base qui vivait dans des plaines, qui pouvait être victime de troupes de loups, de félins ou autres. Mmh. Le chien, lui, c'est un prédateur, donc il aime jouer, courir après la balle, après une balle, etc. Il a un comportement de prédateur. Il a un comportement très très proche de nous. Nous, on est le seul primate qui chasse en groupe des grosses proies, exactement comme le loup. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir une répartition des rôles, une compréhension des autres, etc., qu'on partage avec le chien depuis des millénaires. Donc on a tout ça en commun. Le chien et l'homme, c'est vraiment exceptionnel.
Et vous êtes vraiment attaché à faire mieux connaître justement ces animaux sauvages, hein, parce que ces animaux domestiques, on les connaît bien, mais il y a tous ceux qui nous environnent et
oui.
qu'on a bien du mal à comprendre.
J'aime bien mélanger les curiosités, parce que les naturalistes souvent dédaignent les animaux domestiques, alors que ce sont souvent des gros mammifères qui nous montrent des comportements naturels qu'on n'aurait jamais avec un chevreuil ou avec un lynx. Aller observer le c'est langage vrai. Sexuel du lynx. Alors que le chat, on l'a à la maison. Donc quand même... c'est une source d'observation, ça nous apprend à observer aussi, à mieux regarder de tout ça.
Marc Giraud, en ce moment, c'est une période intéressante de reproduction et de parade nuptiale. Vous avez observé un certain nombre.
Oui.
Ouais, donc là, en ce moment, il y a le choix. Hein.
Oui, on est en plein dedans. Là, c'est le printemps, vraiment. Il y a déjà des petits. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Mm-hmm. Les parades nuptiales, ça peut paraître absurde. Là, par exemple, sur les plans d'eau, il y a les grébupés. Les grébupés, c'est pas très connu. En fait, c'est un oiseau très commun. On peut en voir sur le lac de Créteil, partout. C'est un superbe oiseau. Le mâle et la femelle se font des espèces de oui, de non avec la tête, très mécanique, très absurde. Ils se font des cadeaux de noces, ils plongent, ils se donnent des algues, etc. On comprend pas à quoi ça sert. Mm-hmm. Mais tout ça, ça a été sélectionné au cours et ritualisé au cours de l'évolution, et ça a un sens. D'abord, les animaux sauvages, ils craignent le contact. Ils sont pas habitués à ça. Donc, pour arriver à l'accouplement, faut quand même qu'on sache que celui qui est en face est le bon, qu'on se trompe pas d'espèce. C'est aussi pour ça que c'est tellement ritualisé, que chaque espèce a des gestes très, très, bien précis, ritualisés. Ça sert aussi à arriver en même temps à synchroniser ces cycles biologiques pour arriver en même temps à l'accouplement, parce que ça arrive pas comme ça. Mm-hmm. Ça sert à la femelle à deviner que le mâle sera un bon géniteur, etc. Enfin, ça a beaucoup de ça a l'air absurde, mais la parade nuptiale, c'est très intéressant.
Ouais. Parade des papillons, par exemple, aussi en ce moment.
Ah oui, là j'en ai vu. Hier, j'en ai vu des aurores.
Tout se passe bien.
Oui, la femelle dresse le derrière et diffuse ses parfums aphrodisiaques. Alors les mâles, ils arrivent. Ils papillonnent, des fois il y en a deux ou trois autour de la femelle, et puis voilà, il y a accouplement. Hein.
L'accouplement, le cas des escargots est très intéressant.
Ah, monsieur, dame, l'escargot, c'est un cas à part, lui j'aime bien, oui.
C'est chaud, hein.
Ah oui, ça pourrait
c'est
faire...
C'est torride, hein.
C'est un peu sadomaso.
Oui, c'est ça.
Voilà, d'abord ça dure 12 heures, ils sont mâles et femelles en même temps, ça peut faire rêver. Mm-hmm. Hein. Et ils s'enfoncent un aiguillon calcaire dans la peau, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment accouplement.
C'est ça.
Et on pense que c'est parce que le rôle du mâle, chacun cherche à jouer uniquement le rôle du mâle parce que c'est le plus facile, c'est le plus économique. Alors que le rôle de la femelle, après il y a la gestation, la ponte, ça coûte beaucoup d'énergie. Ouais. Donc ils sont obligés de forcer l'autre à jouer le rôle femelle. Voilà.
Donc ils sont un peu, sadomaso, c'est vrai.
Ouais,
ils sont
même
en vache. Le cas des crapauds, par exemple, il y a des orgies avec des
j'osais pas le dire.
Des documents photographiques, mais à ne pas montrer à des enfants de moins de 12 ans.
Oh, ils voient un gros groupe de crapauds, voilà. Alors, il y a qu'une femelle au milieu, c'est l'amour de groupe. Ça a été photographié par une spécialiste des crapauds. J'ai plein de spécialistes qui ont enrichi ce livre passionnant. Là, c'est François Sercollet du Muséum, qui tombe sur des comportements. Les amours de groupe des crapauds, on le voit très facilement parce que ça manque de filles chez les crapauds.
Ouais.
Et les crapauds sont assez obsédés sexuels, donc,
donc ça
moi,
fait
je les ramasse
groupes,
le printemps pour qu'ils se fassent pas écraser. Quand ils traversent, donc ils attrapent la main du naturaliste, ses bottes, le museau d'une carpe par exemple, enfin tout ce qui bouge.
Ah ils sont complètement obsédés. Alors.
Ou un autre mâle, etc. Donc quand il y a une femelle, elle est assaillie. Hein.
L'éducation des petits, donc ça aussi c'est un des thèmes du livre, il y a beaucoup de choses très intéressantes
à ce
sujet-là. Ouais. Chez les insectes, tiens, qu'est-ce qu'on observe dans ces rapports mère-enfant? Il y a des choses qu'on
voit, ou pas ? C'est souvent la femelle pond là où c'est bien, là où les œufs seront en bonne condition et elle s'en va. Ils se connaissent pas. Mais il y en a comme le perce-oreille qui s'occupe de leur progéniture, effectivement.
Ouais. Mais c'est rare, apparemment, non?
C'est très rare. Hein. Et pas les insectes, mais les araignées, il y en a aussi qui s'occupent de leurs petits.
Ouais. Les chants aussi d'oiseaux, ça vous intéresse?
Bah oui, qu'est-ce qu'il raconte?
Même période aussi, très faste.
En ce moment, ça n'arrête pas. Là,
ouais. Donc il y a une communication incroyable.
Oui. Et chacun, c'est un peu comme les fréquences des radios, chacun a sa voix et ne concerne que son espèce. Donc ils chantent tous en même temps, mais chacun n'écoute que celui qui le concerne.
Ouais. Et les odeurs, donc là aussi c'est un vecteur de communication, comme vous l'expliquiez tout à l'heure avec les papillons, mais qui est partagé par beaucoup d'autres espèces.
On s'en rend pas compte. Et le début du livre, je rappelle que chaque animal vit dans son monde. Mm-hmm. L'homme reconnaît son chien à la vue, mais le chien reconnaît son homme à l'odeur. Donc la mouche goûte avec les pattes, la chauve-souris voit avec les oreilles. Enfin, il faut se mettre à leur place pour bien comprendre leur comportement.
Ouais. Les animaux, justement, sur leur façon de se nourrir, vous donnez l'exemple de l'aigrette garzette, qui pêche avec ses pieds.
Parce qu'elle a des petites chaussures blanches ravissantes sur ses pattes noires et elle les agite dans l'eau. C'est très marrant à regarder. Ouais. Une fois, j'ai écrasé mes lunettes tellement c'était fascinant à regarder, donc je me suis assis sur mon sac. Donc il y avait une aigrette comme ça qui agitait ses pattes dans l'eau parce que ça fait fuir les proies, ça les agite, etc. Mm-hmm. Et comme c'est jaune, assez pétant, c'est très visible. Mm. Et elle pêche comme ça, effectivement.
Ouais. Et puis donc, la chasse des carnivores, les araignées par exemple, ça aussi, il y a des choses intéressantes à observer. Hein.
Oui, parce que toutes les araignées font pas leur toile. Il y en a qui chassent à court, mm-hmm. les araignées loups, donc on en a dans les maisons. On en a partout. Il y en a qu'on appelle les araignées crabes qui sont dans les fleurs, qui chassent à l'affût. Donc les femelles peuvent être blanches sur une fleur blanche et si elles vont sur une fleur jaune, elles changent de couleur en 3 jours. Et elles sont très discrètes. Et ça, on le voit partout. Dans un parterre de fleurs, on voit ça. Ouais. Hein.
Que des animaux du territoire hexagonal?
Oui, non seulement de chez nous, mais vraiment, il n'y a pas d'espèces rares, sinon un loup pour montrer la comparaison avec le chien. Mais vraiment, tout le monde peut voir ce qu'il y a dans ce livre.
Ouais. Sauf ce que vous avez sur votre chemise turquoise, Marc Giraud, qui sont des petits pandas magnifiques.
Oui, mais ça, c'est pour la radio. Hein. Voilà.
On ne les croise pas dans votre ouvrage. Les animaux en bord de chemin, ça vient de paraître aux éditions de Lachaud et Nestlé. Et merci d'être venu nous en parler cet après-midi. Marc Giraud dans notre club des têtes au carré. Et bon week-end à vous.
Merci.
Et c'est terminé pour cette semaine de Tête au Carré. On se retrouve lundi en direct. Et puis dans un instant, bien sûr, vous retrouverez la fiction d'affaires sensibles avec Fabrice Drouel dans quelques minutes. Merci à Céline Hilla qui nous a accompagnés pendant toute cette semaine. Et puis vous retrouvez toute la programmation musicale signée Jean-Michel Montu sur le site de l'émission, tout comme le podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver les dossiers que vous avez manqués sur franceinter.fr. Bon week-end.